Donc là, on va parler du cinéma méditerranéen. Très brièvement, je vais faire une petite présentation théorique et puis après, on va montrer le film. Et là, on va échanger autour du film. Vous allez me poser des questions, à votre avis, comment j'ai fait ça, pourquoi, etc. Je pense que c'est très intéressant que vous vous posiez des questions. Alors, dans le terme cinéma méditerranéen, en fait, il y a une association entre une expression artistique, le cinéma, et une indication géographique, la Méditerranée. Alors, le cinéma, c'est une invention technique moderne, c'est un art du XXe siècle. Les films Lumière, qui sont les premiers films, en fait, datent de 1895. Et donc, alors que le cinéma est une invention donc, technique moderne, la Méditerranée est vieille comme le monde. C'est le berceau des civilisations antiques et le berceau de la civilisation occidentale, notamment. On peut dire que c'est un peu la culture mère et c'est aussi l'endroit où est né le monothéisme. Donc, comment est-ce que ce paradoxe-là, entre XXe siècle, modernité et civilisation antique, comment ça se révèle ou alors comment ça s'articule dans les films dits méditerranéens? Est-ce qu'il y a une spécificité du cinéma méditerranéen? Est-ce qu'il y a un cinéma méditerranéen ou des cinémas méditerranéens? Est-ce que ce paradoxe-là, en fait, temporel, est-ce que ça contribue à créer la spécificité du cinéma méditerranéen? Par exemple, dans le cinéma américain, il y a eu toute une dimension mythologique à cause de leur histoire d'immigration. Donc, il y a une dimension mythologique et aussi de l'épopée, par exemple, qu'on retrouve dans le western, dans le genre du western, qui est un genre typiquement américain. Les westerns, ça vient du cinéma, vous voyez, ça vient du cinéma américain, c'est très lié aussi à leur histoire. Donc, est-ce qu'on trouve ça comme ça dans le cinéma méditerranéen, une relation entre l'histoire et la spécificité des films? Donc, moi, je ne sais pas, en fait, je pose la question. Hein? Donc, avant d'être une région, la Méditerranée, c'est une mer. C'est une mer intercontinentale fermée qui est située entre trois continents, entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Elle doit son nom au fait qu'elle est une mer. En fait, son nom du latin, c'est Mare Mediterra, ça veut dire mer au milieu des terres. Au milieu des terres, sous-entendu à l'époque, des terres connues, sous-entendu du monde connu. Donc la superficie de la mer Méditerranée, c'est 2 millions de et demi de kilomètres carrés et elle s'ouvre vers l'océan Atlantique par le détroit de Gibraltar de 14 kilomètres qui est entre le Maroc et l'Espagne. Tarifa et Tanger d'ailleurs, c'est très joli. Moi j'étais à Tarifa, il y avait un festival là-bas. Le Maroc en face, il y a un petit bateau et c'est magnifique. Et il y a des maisons blanches. Comme en Afrique du Nord, et on entend souvent des cloches. On se dit, ah, mais non, je ne suis pas en Afrique du Nord, je suis en Espagne. C'est très étonnant. Voilà. Donc, la région méditerranéenne, c'est donc le point de départ de la civilisation occidentale et du monothéisme. Il y a eu différents empires et civilisations qui se sont succédés en Méditerranée. Et parce qu'il y a eu des civilisations, on peut parler de culture méditerranéenne. Donc, vous voyez, au départ, c'est une mer, une région où il y a eu des civilisations, donc ça a créé des cultures méditerranéennes. Quand il y a civilisation, il y a culture. Donc, d'abord, il y a eu. Il y a, et d'ailleurs, il y a plusieurs appellations, la mer Méditerranée. Par exemple, les Égyptiens dans l'Antiquité l'appelaient le Grand Vert. On en trouve mention dans la Bible, dans l'Ancien Testament. On l'appelle la mer Inder, ou la mer suprême. En hébreu moderne, elle est appelée par contre Yam HaTichon. Je ne sais pas s'il y a des gens qui écrivent l'hébreu, si je peux l'écrire au tableau, qui est en fait une traduction, ça veut dire la mer du milieu. Donc on retrouve toujours cette notion de milieu. C'est en fait une traduction littérale de l'allemand Mittelmeer, parce que les gens qui sont arrivés, qui ont immigré, en fait, venaient d'Europe et parlaient l'allemand ou le yiddish. En romain, donc on était à l'Égypte, en fait, donc on retourne dans l'Antiquité. En romain, c'est la mer intérieure, Mare Nostrum, notre mer, au Mare Internum, la mer intérieure. En arabe, c'est Al-Bahr el-Abyad el-Mutawassat, qui veut dire la mer blanche du milieu. C'est très joli aussi. Donc c'est la mer verte chez les Égyptiens, la mer blanche chez les Arabes. Et c'est vrai que quand il pleut, vous avez dû le voir là, quand il a... Moi, je me rappelle en Tunisie, quand j'habitais là-bas, c'était très étonnant, et j'en parle dans mon roman, quand il pleut, la mer devient blanche, la mer Méditerranée. Est-ce que vous avez remarqué, là, quand il a plu? Ça, elle devient blanche comme du lait. C'est magnifique, non? Elle n'est plus du tout bleue. Bon, vous regarderez la prochaine fois. Alors, est-ce que vous savez en Méditerranée, qu'est-ce qu'il y a eu? Quels sont les empires qui se sont succédés? Donc, il y a eu les Égyptiens, on a dit, hein? Je passe un peu hein, le côté historique. Donc, il y a eu les Égyptiens, il y a eu avant les Grecs, il y a eu les Phéniciens aussi. Donc les Phéniciens, c'était des marins, et donc ils ont beaucoup innové dans le domaine des techniques de navigation et dans la construction navale, et donc ils ont fait de grands voyages en Méditerranée, dans l'ensemble de la Méditerranée, et c'était aussi des peuples marchands, et ils ont développé donc leur commerce en créant les comptoirs. C'est eux, en fait, ce sont les Phéniciens qui ont inventé les comptoirs dans l'ensemble de la Méditerranée. Donc ensuite, il y a eu les Grecs au 7e siècle avant Jésus-Christ, qui ils ont commencé à coloniser le bassin méditerranéen. Et donc il y a eu une expansion, il y a eu un regain des activités commerciales et maritimes. Et ils se sont inspirés en fait du modèle phénicien et ils ont continué à faire les comptoirs en Méditerranée et des ports marchands dans toutes leurs colonies. Donc c'est Athènes qui devient un grand empire maritime. Ensuite, il y a eu l'empire, donc là c'est la Macédoine, parce que pareil, j'étais en Macédoine, il faut faire très attention parce qu'ils ne sont pas grecs. C'est très... Donc Alexandre le Grand, l'empire d'Alexandre le Grand, pour maintenant, c'est pas grec, c'est Macédoine. Donc l'empire d'Alexandre... Ensuite, il y a eu donc l'empire d'Alexandre le Grand, il a annexé la Phénicie et l'Égypte. Et donc, pour la première fois dans l'histoire, tous les sangs, les grands sangs de la Méditerranée se trouvent réunis sous le même pouvoir. Hein, donc, c'est un empire immense. L'empire d'Alexandre se désintégra rapidement. Et de nouveau, le Moyen-Orient, c'est-à-dire l'Égypte, la Grèce, de nouveau furent indépendants. Donc, les conquêtes d'Alexandre ont néanmoins répandu dans toute la région le savoir-faire et les idées des Grecs, donc toute la philosophie grecque. Ensuite, après les Grecs et Alexandre le Grand, il y a eu... Ceux qui connaissent la Tunisie, il y a eu Carthage. Personne n'est allé en Tunisie voir les ruines de Carthage? Il y en a un là-bas. Donc, c'est une ancienne colonie phénicienne qui constituait un empire et qui regroupait donc la plupart des comptoirs phéniciens. Elle était héritière directe des Phéniciens. La cité de Carthage constitue en fait le moteur de l'économie de la Méditerranée jusqu'en 146 avant Jésus-Christ. Ensuite, après Carthage, il y a Rome. Donc vous voyez, il y a différentes couches comme ça qui se succèdent. Donc, Rome a annexé l'Italie, ensuite a vaincu Carthage lors des guerres puniques, hein, et ça devient la puissance dominante de la région. Et ensuite, Rome poursuit son expansion en annexant la Grèce et se réapproprie l'héritage grec. Alors, à partir de ce moment-là, il y a un basculement qui s'opère, c'est que les sociétés commerçantes des côtes dominent définitivement les civilisations des vallées intérieures. Donc, et on retrouve, alors là, on retrouve quelque chose qu'on a encore à notre époque, c'est-à-dire le conflit entre le pouvoir de la côte et le pouvoir des terres intérieures. Par exemple, en Tunisie, ce qui s'est passé là actuellement, ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas la région du Sahel, donc de la côte, d'où a démarré la révolte, c'est des terres intérieures de Sidi Bouzid. Et c'est aussi en ça que c'est révolutionnaire, c'est que, voilà, dans l'histoire, il y a toujours eu comme ça une opposition en fait entre, entre la côte et la terre intérieure. Et donc ça, là, c'est l'époque où, le commerce, à cause de la navigation, etc., domine les côtes. Donc il y a eu ensuite ce qu'on a appelé la Pax Romana. Ça, vous avez étudié, je pense, en histoire. Donc là, le commerce maritime connaît son apogée. Donc, qu'est-ce que c'est la Pax Romana ? Vous savez ou pas ? Hein ? La paix romaine, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont, il y a eu la paix dans tout l'Empire, ils ont éradiqué tous les barbares, etc., tous les pirates, donc paix totale, les gens peuvent voyager. Comme l'Empire est grand, il y a un acheminement constant de marchandises, donc ça fait des échanges culturels, en fait, entre différentes parties de l'Empire, hein. Et donc ça fait... les échanges culturels, c'est toujours bien pour une civilisation. Donc, à ce moment-là, on l'appelle donc le lac romain, la Méditerranée. Mare Nostrum, notre mer, le lac romain. Ensuite, il y a eu le christianisme et Byzance. Donc, je vais passer, hein, je ne vais pas vous faire une cour d'histoire. Donc, vous connaissez un peu l'histoire l'Empire romain, Constantinople, qui se convertit au christianisme, etc. Ensuite, il y a eu l'islam qui est passé, donc à partir du 7e siècle, donc on va dire jusqu'au 12e siècle, donc toute la région méditerranéenne devient, pas toute, mais une partie devient musulmane. Donc les Omeyyades et les Abbassides vont jusqu'en Afrique du Nord, hein, jusqu'en Espagne. Ensuite, il y a eu les croisades et la Renaissance. Et ensuite, nous avons les Ottomans et en 1453, la chute de Constantinople, qui donc met une fin définitive à l'Empire byzantin. Donc, les Ottomans, vous savez jusqu'à quand il a duré l'Empire ottoman ? Non, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Hein. Il était l'homme malade de l'Europe, mais bon, quand même. Donc, les Ottomans ont dominé la Grèce, une grande partie des Balkans. D'ailleurs, on le voit dans les Balkans, c'est qu'il y a encore une culture, on sent là, la culture ottomane. Donc, Afrique du Nord, Maroc, etc. Et donc, le déclin de la Méditerranée a commencé... au moment en fait où la navigation océanique, c'est-à-dire vers l'Atlantique, s'est développée. Et jusqu'à présent, tous les échanges avec l'Orient avaient transité par la Méditerranée. Et alors, bien là, maintenant, ça passait par l'Atlantique. Voilà. Et aussi, il y a eu la découverte de l'Amérique. Donc, ça, c'est devenu soudain une source de développement. Donc, 1492, hein, c'est devenu une source de développement important, dont certains États méditerranéens furent totalement coupés. Donc à ce moment-là, il y a encore une fois un basculement et la Méditerranée n'est plus du tout au centre du monde comme c'était à l'époque. Alors au niveau du cinéma maintenant, donc ça on a eu un bref aperçu, donc on a différentes couches comme ça de culture et de civilisation. Donc au niveau du cinéma, donc l'invention du cinéma c'est Léon Bouly en 1892, mais c'est les frères Lumière qui ont déposé le brevet le 13 février 1895. Donc on date de 1895 l'invention du cinéma. Surtout pourquoi ? Parce qu'ils ont il y a cinéma aussi à partir du moment où il y a projection privée. Et donc, ils ont commencé à faire leur projection privée en 1895, le 28 décembre 1895, au Salon Indien du Grand Café, à Paris. Et donc, c'est pour ça que c'est cette date qui est retenue en France comme étant la naissance du cinéma. C'est-à-dire, c'est une projection payante, publique, d'images animées. Et au programme, il y avait, par exemple, l'arroseur arrosé. Vous avez dû le voir, c'est un petit sketch de quelqu'un qui s'arrose, voilà. Ensuite, ils ont envoyé des opérateurs, c'est-à-dire des caméramans comme lui, tout autour du monde pour ramener des films courts, un peu des documentaires. C'est des premiers documentaires. Et aussi, il y a les débuts du cinéma amateur. Par exemple, il y a un opérateur qui filme un bateau, et donc il est sur un bateau, et donc du coup, c'est le premier travelling qui a été inventé. Il y a Charles Pathé aussi qui a envoyé des opérateurs. Mais par contre, on date le cinéma en tant que, non pas invention technique, mais en tant qu'histoire, plutôt à partir de Georges Méliès, qui réalise par exemple Le Voyage dans la Lune, qui fait les premiers trucages et les premiers effets spéciaux. Disons que les frères Lumière ont inventé la machine, la technologie, et c'est ce qui rend possible l'éclosion du cinéma. En fait, c'est Méliès, hein, c'est-à-dire qu'il invente... la narration, en fait, le fait que ce sont des histoires, et ce n'est pas simplement une vue de l'entrée du train en gare. Vous savez, cette image très connue, vous avez dû la voir 10 000 fois, non ? Du train. Les gens ont eu peur à la projection quand ils ont vu ça la première fois, parce qu'ils ont eu l'impression que le train allait sortir de l'écran et aller vers eux. Voilà, donc ça, c'est. Mais ça, ce n'est pas encore du cinéma, c'est juste l'enregistrement de la réalité, et les gens avaient peur de ça, parce que c'était la première fois. C'est avec Méliès qu'on a on inscrit l'image dans une histoire. Voilà. Parce que, après, il y a eu le cinéma muet et le cinéma parlant. Donc, le premier film parlant, il date, est-ce que vous le savez, de 1929, c'est Le Chanteur de Jazz. Voilà. Donc, à l'époque aussi, il y avait avant le cinéma parlant, c'était beaucoup plus facile de faire des films, finalement, parce que c'était plus universel, puisqu'il n'y avait pas de problème de langue, puisque c'était les images qui parlaient. Donc après, il y a eu un grand bouleversement au niveau des acteurs, etc., et de la production, des productions nationales, à cause de ce problème de langue, que c'est le nouveau problème de langue que ça a créé. Donc ce qu'on voit, en fait, c'est que le cinéma, c'est des histoires. Et donc dans le terme cinéma méditerranéen, c'est des histoires, et il y a la grande histoire aussi. La Méditerranée, c'est quand même, on a dit historiquement, le berceau de la civilisation occidentale. Donc moi, ce que je me suis demandé quand j'ai travaillé sur cette conférence, c'est au vu des différentes civilisations qui se sont croisées, en fait, qui se sont succédées en Méditerranée, est-ce qu'on peut dire qu'il existe une culture ou un cinéma méditerranéen, ou alors plusieurs cinémas méditerranéens ? Est-ce que c'est l'intitulé, ça ne serait pas plutôt une conférence sur les cinémas méditerranéens ? Ce qui mettrait en avant que la culture méditerranéenne est plurielle. Par exemple, quel est le point commun entre le cinéma de Théo Angelopoulos, qui est grec, et Fellini ? C'est tous deux cinéastes méditerranéens. Mais maintenant, quand on voit un film de Théo Angelopoulos et un film de Fellini, ça n'a rien à voir. Il y en a qui est italien. Vous avez vu des films de Fellini ou pas ? Oui, ça parle beaucoup, c'est italien, c'est pétillant. Angelopoulos, c'est très lent, c'est des longs travelling, beaucoup de silence, de la musique. Voilà, c'est le jour et la nuit, en fait. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt des cultures et des cinémas méditerranéens ? Ensuite, la deuxième problématique. Alors là, je pose des problématiques. Après, on va regarder le film. Et puis, vous allez réfléchir aux problématiques que je pose. Et puis, vous allez essayer d'y répondre, hein. Parce que moi, un artiste, c'est quoi ? Un artiste, c'est quelqu'un qui pose des questions. Ce n'est pas quelqu'un qui y répond. Ceux qui répondent, c'est des intellectuels. Donc, je ne suis pas philosophe, je suis artiste. Donc, les artistes, on a des intuitions sur le monde qu'on transmet, en fait, dans nos films. Et ensuite, les questions qu'on pose permettent aux gens de réfléchir et éventuellement de trouver des réponses. Ensuite, je me suis dit, est-ce que le fait que... est-ce que le fait que la culture méditerranéenne se remonte à l'Antiquité comme ça, est-ce que l'articulation de la grande histoire et de la petite histoire, est-ce que c'est une spécificité du cinéma méditerranéen ? Ou est-ce qu'il y a, par exemple, dans les films de Rossellini, Rome ville ouverte, Le regard d'Ulysse de Théo Angelopoulos, par exemple. Ça, c'est un film méditerranéen typique, parce que c'est un, C'est des gens qui vont faire tout le tour des Balkans et de la Méditerranée pour retrouver la première image, le premier film au monde. Voilà. Donc c'est très symbolique. Et est-ce que la culture méditerranéenne influe sur les thèmes choisis? Par exemple, vous allez voir, vous allez me dire quand on va regarder le film, dans mon film, si dans les rapports homme-femme ou mère-fille ou les rapports familiaux, etc., est-ce que le fait que je vienne un petit peu d'une culture méditerranéenne, disons la moitié de ma culture, est-ce que ça va influer, est-ce que ça influe sur l'histoire que je raconte? Voilà. Donc il y a 3-4 questions, vous les avez bien en tête, donc maintenant on va voir le film, et puis on va essayer d'y réfléchir ensemble. Alors, hop, on va mettre... c'est jusqu'à quelle heure en fait? Que je vois. Film, voilà. On va mettre peut-être la première bobine, les 20 minutes. Ça va, c'était pas trop.
Non, non, très bien.
Je vois qu'ils s'ennuient. Hein ?
Ils parlent pas.
Ah ouais ? Moi, j'ai fait vite fait l'histoire parce que je me suis dit.
Non, mais c'est très bien. Obligatoire.
Tarifa, voilà, j'en ai parlé. On va se mettre là. Par contre, je le connais par cœur, mais c'est surtout toi.
Thank you. Thank you. à Paris? C'est là-bas que j'ai fait mes études de médecine. Puis je suis installé jusqu'à l'occupation. Et puis j'ai été obligé de venir ici. Et toi? Raconte-moi. Qu'est-ce que tu aimes faire en général?
Rien.
Tu dis jamais rien comme ça. Pourtant, à ce qu'il paraît, on disait que tu étais bien plus loquace.
Comment c'est ce que j'ai fait?
Ça dit au tout.
خير من حفش فوق في اللون ومن بعد جاب خير كنات مريم رانا في الجيلة
كملته وكتب العربي
كيف أما؟
مازلت
إذنتك أخنا خير
نعرف علاش تحب تشوفني؟
لا لا يحب إذا كان نعرف Je ne sais pas si tu es là.